9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
François Claus sur Europe 1.
Bonjour à toutes et tous. Jeudi soir, 18h, devant une centaine de journalistes, suivi par 7 millions de téléspectateurs, le très saint-simonien professeur Macron administre sa potion à une démocratie en souffrance. Maison des citoyens, conseil de participation, zeste de référendum local, pour découvrir que derrière les chiffres et les objectifs, il y aurait des hommes et des femmes. La philosophe Chantal Delsol, qui vient de publier avec une soixantaine de chercheurs internationaux « La démocratie dans l'adversité », nous livre ce matin sur Europe 1 ses réflexions.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec François Claus sur Europe 1.
Mais comment ne pas commencer ce round-up hebdomadaire de l'actualité avec un hommage? Oui, c'était mercredi soir, Jean-Pierre Marielle, 87 ans, nous a à son tour lâchés, parti rejoindre ses potes, Rochefort, Serrault, Noiret, comme un flashback sur 50 ans d'histoire du cinéma français.
Sacré mon con, j'ai même jamais vu un con pareil.
Les gens sont cons, faut en profiter. Hein, une vieille ferme que j'achète au nu de briques, avec 1 ou 2 millions, je la retape, et je la revends à crédit, 7 ou 8, à des cons. Ils ont 20 ans pour la payer, ils sont ravis. Et moi aussi.
Le plaisir d'un vrai vendeur, c'est de vendre à des gens qui n'ont absolument pas besoin de ce qu'on leur propose ou qui n'ont pas de quoi se le payer.
Ah, regarde-moi cette couleur.
Ah. C'est ni jaune citron, ni jaune safran. C'est jaune morlingue, jaune blé, quoi.
Van Gogh aurait vu ça, il en aurait fait un chef-d'œuvre.
Oh, il est magnifique. Je vais le peindre en vert. En bleu, en rouge, en jaune. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois, s'il le faut. Ah, nom de Dieu, de bordel de merde. Ah, tu m'en tailles. Tu m'en fous. Ah, ton cul, ton cul. C'est mon génie.
C'est un beau petit morceau, hein? Ça, elle vaut bien son coup de chevrotine.
Gynécologue! Ça vous dit quelque chose, des culs, monsieur le commissaire? Toute la journée, des culs! Toujours des culs, 30 à 40 touchés par jour, c'est sa moyenne. Alors j'aime autant vous dire qu'une fois sa journée terminée, il ne pense plus qu'à une chose, faire ses mots croisés devant un restant de blanquette à la cuisine et vite aller dormir. Parce que le lendemain matin, à 7 heures sur le pont, des culs, toujours des culs!
L'armée, ça doit être bien emmerdant des fois, non?
Je saurais rien faire d'autre, et toi?
Moi, c'est pareil.
Puis aussi, est-ce que savoir rien foutre, ça suffit comme but dans la vie?
Pas toujours, ouais. Hein.
Le piège classique, les premières chaleurs du printemps. On commence à s'émouvoir sous les dredons, une blouse un peu étroite qui ne demande qu'à s'ouvrir, les mains s'égarent, c'est chaud, c'est doux.
Ce qu'on fêche, et on recommence le lendemain.
Voilà. Et à 40 ans, on est une épave.
Il y a deux races de femmes, les frappées et les sournoises.
Pardon, monsieur, la rue Gustave Flaubert, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert?
Ça ne me regarde pas, monsieur.
Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande.
Oh, il est très aimable.
En quel honneur?
Je suis Jean-Pierre Marielle.
Oui.
L'acteur.
Oui, je vois.
Voilà.
Bon.
C'est tout.
C'est tout et c'est tellement à la fois flashback sur ce cinéma populaire des années 70 en France, avant le temps des multiplex, avant le temps des blockbusters. C'était le temps du cinéma du dimanche. On allait en famille au Capitole, on allait au Palace. Vous aurez reconnu par ordre d'apparition dans votre transistor comme La Lune, Joël Seria, Sex Shop, Claude Berry, Les Galettes de Pont-Aven, Joël Seria, Calmos, Bertrand Blier, Les Grands Ducs, Patrice Lecomte, Coup de Torchon, Bertrand Tavernier, Les Acteurs, Bertrand Blier. La mise en scène est signée Jean Le Naff et Julien Pierce, B.O., Stan Getz, Chet Baker, deux des musiciens préférés de Jean-Pierre Marielle. Musicalement, pour remonter le fil de cette carrière au sans film, on aurait pu vous faire entendre ça aussi. La fameuse viole de Gambe pour le film, le superbe film signé Alain Corneau, Tous les matins du monde. L'un des plus beaux rôles peut-être de Jean-Pierre Marielle. Il aurait dû cette année-là avoir le César du meilleur acteur, lui toujours nommé, jamais élu. Mais non, ce fut le très beau Dutronc dans le Van Gogh de Piala cette année-là. Mais finalement, on entendrait presque cette voix qui nous manque déjà nous dire « les Césars, mais bordel, bordel, on s'en fout, vive le cinéma !»
Europe 1.
Ce n'est qu'une pâle copie, hein, pardon, monsieur Marielle. Retour au présent, dans un instant, 48 heures après la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Réflexion autour de la démocratie en souffrance. La philosophe Chantal Delsol vient de prendre place dans ce studio.
Europe 1, 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Europe 1.
Jusqu'à 10h, on vous retrouve, François Claus, pour C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Bonjour Madame Delsol.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, spécialiste des idées politiques. Vous dirigez l'Institut Hannah Arendt à l'Université de Marne-la-Vallée.
Enfin, j'ai dirigé parce que je suis émérite maintenant.
Vous êtes émérite et vous publiez avec une soixantaine de chercheurs du monde entier une somme, un peu plus de 1000 pages, passionnante.
Un peu plus de 60 même.
Oui. Ça s'appelle « La démocratie dans l'adversité ». C'est publié aux éditions du CERF. Vous faites un constat noir, pessimiste. Notre régime démocratique, dites-vous, est en décadence, notre régime démocratique souffre énormément aujourd'hui.
Oui, je n'hésite pas à dire décadence parce que je pense qu'il y a effectivement une sorte de très très grande fatigue, ce qui ne veut pas dire que c'est la fin, parce qu'on peut toujours quand même réagir, mais surtout il y a plusieurs raisons, depuis la plus profonde jusqu'à la plus superficielle. Donc je pense que c'est suffisamment grave pour convoquer un certain nombre d'esprits, enfin de gens dont c'est un peu la spécialité, pour établir des diagnostics.
Quelle est, selon vous, l'explication à ce délitement que vous décrivez ?
Mais il y a un certain nombre de raisons. Si on veut en tirer deux, parmi les plus importantes, je pense, il y a d'abord une raison fondamentale qui est le fait que on fait de moins en moins confiance à ce que j'appellerais la conscience individuelle, au bon sens, au sens commun, qui est quand même le fondement de la démocratie. La démocratie est complètement arrimée sur une croyance dans la sagesse commune. Si on n'y croit pas, il ne faut pas être démocrate. Et là, il y a une sorte de perte à cet égard. Bon, on peut peut-être en reparler après. Et puis le deuxième point qui me paraît le plus important, même s'il y en a d'autres, c'est qu'on a un peu oublié ces dernières décennies que la démocratie n'est pas véritablement, n'est pas même pas du tout un système, une sorte de clé à molette qu'on pourrait prêter à son voisin.
C'est pourtant ce qu'on essaye de nous distiller comme discours ambiant aujourd'hui.
Ce qu'on prétend nous imposer, mais la démocratie c'est une culture. Et donc s'il n'y a pas dans une société une culture démocratique, ça ne sert à rien d'essayer de faire voter les gens. On aboutira qu'à des dictatures, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans un certain nombre de pays actuellement. Là je pense qu'il y a une grosse erreur de ce côté-là.
Alors on va essayer de comprendre avec vous comment cette culture soudain serait en train de disparaître, comment on aurait perdu ce sens commun. Dites-vous, je vous propose d'écouter le diagnostic que notre président de la République formulait dans son propos liminaire jeudi soir.
D'abord, face au sentiment d'injustice, nous devons apporter une réponse qui place l'homme au cœur de notre projet, bien davantage que nous ne l'avons fait. Notre projet national doit être plus juste, plus humain, afin de rassembler et de réunir.
Alors plus juste, plus humain, replacer l'homme au centre du système, est-ce qu'il ferait le constat finalement que la démocratie dans son fonctionnement est devenue une forme de système, est devenue une forme finalement de machine qui tournerait à vide ?
Je n'interprète pas du tout ces paroles-là comme une volonté de développer davantage la démocratie, mais plutôt de développer davantage l'État-providence. Quand il parle de justice, bon, placer l'humain au cœur, ça c'est une phrase, c'est un mantra, hein, si vous voulez. Bon, maintenant, ça, on ne sait même plus quel genre de sens ça peut avoir. Enfin, je suis assez dur, mais là, il parle surtout de développer davantage encore l'État-providence, c'est-à-dire d'apporter des subsides au fond aux gens. Donc, pour moi, c'est pas du tout ça la démocratie. Ça pourrait être éventuellement marginal, mais l'essentiel de la démocratie, c'est pas ça, c'est l'autonomie du citoyen qui par lui-même se met au service du bien commun.
Mais on est dans cette situation paradoxale parce qu'on sent venir dans les revendications des gens une forme de plus grande liberté, de se dégager de l'État, et en même temps, paradoxalement, au même moment, on demande plus d'État.
Oui, mais ça, je pense que c'est carrément le système de l'État-providence qui, encore une fois, n'est pas spécialement démocratique, même pas du tout, puisque tous les grands despotismes de l'histoire sont des États-providence et apportent des subsides. Et ça, c'est un petit peu l'idée de ceux qui reçoivent. Ils ne reçoivent jamais assez. Hein, plus on reçoit, plus on veut recevoir. Et plus on reçoit, plus on veut être libre de ne pas recevoir. Il y a une sorte de développement qui ne s'arrête pas. On n'est jamais suffisamment heureux. Et d'ailleurs, ils n'auront jamais assez. On n'aura jamais assez. Je pense qu'on est dans un mauvais engrenage là.
Et cet engrenage, vous êtes même vous n'hésitez pas à faire un parallèle avec les crises précédentes que la démocratie a vécues. Beaucoup de références en ce moment aux années 30, notamment. Est-ce que c'est pertinent de voir les mêmes symptômes aujourd'hui que ceux des années 30?
Alors ça, c'est effectivement une autre question que celle de l'État-providence, mais c'est très important aussi, vous avez raison de le souligner. C'est pourquoi j'ai demandé à Horst Müller, qui est un universitaire allemand, d'écrire un article sur... faire une sorte de comparaison avec les années 30, parce que c'est vrai que la dernière expérience que nous avons de déficit démocratique, même de crise de la démocratie, ce sont les années 30. Alors, le professeur Müller, lui, pense que ce n'est pas exactement la même chose. Bon, c'est très intéressant ce qu'il écrit, un article assez long, parce qu'il dit qu'à ce moment-là, il y avait une corruption démocratique qui était énorme, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors, bon, on pourrait ne pas être d'accord, mais je crois qu'effectivement, il y avait une très très grande corruption et il y avait un refus des parlements à ce moment-là. Mais c'est encore un déficit démocratique. Aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu différent, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se méfier.
Oui, on a eu des affaires dans l'actualité qui nous l'ont montré, mais c'est moins systémique, il y a une forme de plus grande transparence.
Mais je pense que c'est plus profond, en revanche. C'est beaucoup plus profond, parce que justement, la défiance par rapport à la conscience individuelle est beaucoup plus grande, et on le voit au développement de la technocratie. La technocratie, c'est le contraire de la démocratie. Hein.
Mais ce constat-là, il le fait, le président. Il supprime l'ENA, il va créer des maisons citoyennes, il sillonne toute la France en bras de chemise.
Je ne sais pas si c'est des maisons citoyennes ou si ce n'est pas plutôt des maisons de l'État-providence. Je ne sais pas. C'est plutôt des maisons étatiques qui apportent. Je ne suis pas contre, mais enfin, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec la démocratie. Non, ce qui aurait pu développer la démocratie davantage, ça aurait été de donner davantage de responsabilités aux citoyens, ça oui.
Alors, mais il parle de ce constat-là, il dit référendum d'initiative locale, oui, il inverse la proposition sur le référendum d'initiative partagée, d'abord les citoyens, puis les députés. Ça va dans le sens quand même de tenter de recréer ce lien, ou en tout cas d'aller dans le bon sens du lien.
Sauf que l'une des premières choses qu'a fait le président Macron, ça a été de supprimer les impôts, les seuls impôts qui pouvaient apporter quelque chose aux mairies, aux municipalités, de façon à leur permettre justement d'être autonomes. Par conséquent, il leur a coupé les vivres dès le départ, comme si ça n'avait pas d'importance, tout ça. C'est gravissime ce qu'il a fait là. Parce que des collectivités ne peuvent vivre que si elles ont un impôt qu'elles touchent elles-mêmes et directement. Et là, elles vont attendre de l'État parce que immédiatement, Macron s'est empressé de dire « Mais on va vous rétribuer en échange. » Oui, mais il va falloir toujours attendre, réclamer, dire que c'est pas assez. C'est pas bien. Vous voyez, c'est tout à fait le contraire de l'autonomie citoyenne et des collectivités locales.
Alors, on va essayer de voir avec vous, Chantal Delsol, justement, qu'est-ce qui explique profondément cette perte du sens commun que vous évoquez, cette perte de la culture démocratique, et si c'était lié, par exemple, à notre monde d'aujourd'hui, à une forme de révolution digitale. Restez bien sur Europe 1. Chantal Delsol est avec vous.
Europe 1. Ce samedi, de 9h à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec François Kloss.
Et nous sommes avec Chantal Delsol qui publie, alors je disais une soixantaine, vous dites un peu plus, 80,
oui, 80 je crois.
C'est une véritable somme, hein, ça fait un peu plus de 1000 pages, pas à lire de manière cursive, oui. Mais à se plonger dans un certain nombre de réflexions avec les questions qu'on se pose aujourd'hui sur notre démocratie, de moins en moins de participation aux élections. Nous avons évoqué le constat, on va voir avec vous maintenant Chantal Delsol les pistes pour essayer de comprendre cette situation. Ben, le président de la République, dans son constat, il y en a une à laquelle il faisait directement allusion.
Nous sommes rentrés dans la démocratie médiatique du temps de l'information et du commentaire permanent et des réseaux sociaux. Et c'est une transformation pour nous tous, pour ceux qui dirigent et prennent des décisions, comme pour ceux qui les commentent et cherchent à définir une vérité. Et donc, parfois, vous dites les choses, vous les répétez, mais comme le commentaire est permanent et quand à un moment toutes les paroles se valent, bah, il faut pouvoir remettre du sens de manière régulière, se confronter à toutes ces paroles et essayer de rebâtir du collectif dans ces moments de délibération. On est en train d'inventer une nouvelle forme de démocratie.
Alors, on est en train d'inventer une nouvelle forme de démocratie, la démocratie telle qu'on l'entendait. Serait-elle emportée par la révolution digitale, par la rapidité, par la prise de parole universelle et individuelle ?
C'est vrai que la prise de parole universelle, comme vous le dites, une sorte de café du commerce mis à l'échelle de tout le monde en permanence et toutes les minutes, ça ne peut que développer une sorte de démocratie médiatique qui finalement est superficiel. Enfin, on est dans le superficiel en permanence. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça ? Développer les démocraties locales. Quand les gens sont dans un village, c'est pas le tweet du moment qui compte, c'est la personne que vous avez en face de vous. Pour développer les démocraties locales, il faudrait, pour commencer, ne pas supprimer les impôts.
Donc ça, voilà. On l'a compris, vous l'avez dit.
Je pense qu'on ne peut lutter contre le médiatique permanent que comme ça.
On a l'impression qu'on est dans une logique inverse, qui concerne d'ailleurs également peut-être les médias et le monde politique. On voit d'ailleurs dans toutes les enquêtes la défiance de plus en plus grande des Français vis-à-vis des médias et vis-à-vis des hommes politiques. Hein, 7% des Français seulement aujourd'hui font confiance aux hommes politiques. 66% des Français se contestent aujourd'hui les médias, ne font plus confiance. Et on a l'impression qu'on suit, côté politique et côté médias, les réseaux sociaux, ce monde, ce café du commerce universel que vous évoquiez sur Internet, plutôt que de le contrer. Ça serait ça la vocation des politiques.
Oui, mais vous avez remarqué, si vous suivez, puisque vous parlez des chiffres, que les seuls élus locaux, les seuls auxquels les Français fassent confiance, ce sont les élus locaux. Ce sont les gens qui sont proches, ce sont les maires, éventuellement les petits maires. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut développer. Mais c'est très difficile pour nos élites, qui sont quand même très technocratiques, de faire confiance dans ces gens qui ont l'impression qu'ils sont peut-être trop traditionnalistes, trop enracinés. Mais je pense que il y a que ça qui pourrait nous empêcher de tomber dans les pièges au fond de la médiatisation à outrance qui est...
Alors cette démocratie que vous appelez de vos souhaits au niveau local, ça passe quoi ? Par une grande réforme de la décentralisation ? C'est ce que ça pourrait être le remède ? Mais quand on dit grande réforme, c'est vraie réforme.
Vraie réforme, oui, pas du blabla. Enfin, je ne veux pas reprendre les mots des gilets jaunes. Mais oui, c'est sûr que tout ce qui pourra aller dans ce sens, à mon avis, sera susceptible de, non pas de renverser les choses, mais au moins de faire une sorte de contrepoids. Parce que la médiatisation, enfin les tweets, les réseaux, on ne va pas les supprimer. Hein. Nous n'allons pas faire comme la Chine, quand même.
Hein. Plutôt les contrer que les accompagner.
Et voilà, exactement.
Alors, si on doit faire une comparaison, ce qu'on vit aujourd'hui en France, on a tendance à dire aujourd'hui Trump, le Brésil, l'Ukraine le week-end dernier, la démocratie qui se délite en décadence aboutit à un régime forcément autoritaire ou populiste, même si vous n'aimez pas ce mot. Hein, vous parlez de démocratie illibérale.
J'aime pas ce mot parce qu'il n'est pas assumé par les gouvernants dont on dit qu'ils le sont. Donc, j'aime pas les mots qui ne sont pas assumés, ce sont forcément des injures. J'aime mieux dire illibéral. Hein, parce que illibéral, ça, c'est assumé. Alors, ça, c'est encore une autre question. Alors, nous avons, dans ce livre, fait tout un chapitre là-dessus, ce qui, bien sûr, était très important, et il le fallait. sur ce qu'on appelle le populisme ou les démocraties illibérales. Alors là c'est, je pense que c'est une toute autre question, enfin, assez différente finalement de toutes celles dont nous venons de parler. C'est le fait que les démocraties occidentales actuelles ont pris un tour systématique et finalement intolérant. Elles sont devenues, on pourrait dire, abstraites. Et ce qu'on appelle le populisme, ce sont les peuples qui se rebellent contre cela et qui considèrent que, entre autres, il y a trop de liberté. Ça peut paraître bizarre. Comment y aurait-il trop de liberté ? Ben oui. D'où l'illibéralisme. Hein. Qui sont des gens qui disent la liberté ne peut pas aller, ne peut pas être illimitée. Il y a des limites à la liberté comme il y a des limites à tout. Et donc nous allons définir ces limites à la liberté. Évidemment, ça se discute. Mais... Donc ça, c'est encore une autre question.
Mais cette évolution-là, vous la voyez quand même de manière générale, ce qui nous ramène quand même à une difficulté aujourd'hui du politique ou du système politique ou de la démocratie de lutter contre la mondialisation des échanges et des idées. Aussi, enfin, de ce qu'on évoque sur Internet, il y a une forme d'impuissance à gérer ça à échelle d'un pays, d'un État.
Oui, parce que c'est mondial. C'est une évolution, quel que soit le point de vue qu'on puisse avoir là-dessus, le jugement qu'on puisse avoir, c'est une évolution qui est mondiale. Et ici, nous avons ce qu'on appelle les populismes, mettons, en Europe centrale, par exemple, ou en Amérique latine aussi, dans d'autres pays... en Amérique du Nord, avec Trump actuellement, qui rejoignent des évolutions qui sont pratiquement permanentes, comme par exemple en Russie ou en Chine, et qui les rejoignent, et qui d'ailleurs sont liées. Vous voyez la droite française qui s'allie avec Poutine, voyez vous voyez les pays d'Europe centrale qui vont chercher la Chine pour faire certaines alliances plus qu'économiques, hein, le groupe des 16 par exemple. Donc vous avez une évolution mondiale qui est en train d'essayer de contrer le type de démocratie occidentale que nous avons, qui pourrait s'exprimer à travers Macron, Merkel, Clinton. Vous voyez, bon, évidemment on n'a pas le temps de
développer combat,
plus avant.
Et ce combat-là, il est en cours ? Il est décisif pour les années à venir.
Pour moi, c'est une nouvelle guerre idéologique. Hein.
Et il faut comprendre, donc, l'écoute des citoyens, tout en la maîtrisant.
Ben, il faut d'abord essayer de comprendre avant d'injurier. On a fait exactement le contraire jusqu'à présent. On injurie d'abord, et puis on ne sait pas bien s'il faut essayer de comprendre. Je pense qu'il faut comprendre d'abord, avant de savoir s'il faut vraiment injurier.
Mais on a eu le sentiment qu'il y avait une forme de compréhension dans cette conférence de presse présidentielle, au moins dans les termes et dans le constat qui est établi. Parce que finalement... même si on n'a pas encore les finances de tout ça, mais le retour au référendum d'initiative locale, les maisons citoyennes...
Il y a une recherche d'empathie, oui. Il y a une recherche
d'empathie.
Et au
moins, c'est sur la table.
Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que notre président a compris qu'il fallait qu'il ait un peu plus d'empathie. Après, je ne sais pas très bien ce que ça va donner.
Vous êtes inquiète ?
Bah, je trouve un peu dommage qu'on soit retombé dans le... retombé, oui, parce que j'avais un peu d'espoir quand même, mais dans le système français habituel, c'est-à-dire on dépense, nos enfants et nos petits-enfants vont payer. On dépense pour des gens qui ne seront jamais contents, parce que finalement, on est quand même le seul pays occidental, si je ne m'abuse, où 50% des gens ne payent pas d'impôts. Donc, si vous voulez, avec une redistribution absolument incroyable. Donc
l'espoir, il reposerait également sur une forme, j'allais dire, de prise de conscience de la génération à venir.
Bah oui, moi il me semble qu'un politique doit travailler aussi pour l'avenir quand même.
Et un philosophe également.
Eh ben oui, bien sûr.
Et c'est pour ça qu'on vous a invité ce matin sur Europe 1.
Merci
beaucoup. L'avez compris, on aurait pu parler encore longuement. C'est passionnant. Ça s'appelle La démocratie dans l'adversité, enquête internationale, très touffue aux éditions du Cerf. Merci d'avoir été ce matin sur
Merci
Europe 1,
vous.
Chantal Delsol.
Europe 1.
Dans un instant, ben, on va parler de climat, on va parler d'intelligence artificielle. C'est pas tout à fait de l'actualité, mais c'est quand même de l'actualité. Mais c'est de la littérature aussi. Marc Dugain, dans un instant, sur Europe 1.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Continue jusqu'à 10h avec vous, François Kloss.
Bonjour Marc Dugain.
Bonjour.
Ça s'appelle Transparence, c'est votre nouveau roman, il est sur les étals de toutes les librairies depuis maintenant 2 jours. Transparence, alors écoutez, je vais faire simple parce que On va pas révéler au lecteur tout ce qu'il y a dans ce livre, mais on va essayer de lui donner envie de le lire, car on se transporte dans un environnement fascinant et qui nous interroge beaucoup sur le monde d'aujourd'hui. Voilà ce qu'on nous dit en quatrième de couverture. À la fin des années 2060, la présidente française de Transparence, une société du numérique implantée en terre sauvage d'Islande, est accusée par la police locale d'avoir orchestré son propre assassinat. Or, au même moment, son entreprise s'apprête à commercialiser le programme Endless, un projet révolutionnaire sur l'immortalité qui consiste à transplanter l'âme humaine dans une enveloppe corporelle artificielle. Est-ce que cette femme, est-ce que cette société vont réussir à sauver le monde? Ben, vous lirez Transparence pour le savoir. Qu'est-ce qui vous a poussé, Marc Duguin, dans cette inspiration futuriste, vous qui étiez plutôt un observateur des choses présentes dans votre trilogie politique ou passée lorsqu'on se tournait vers l'Amérique des années Kennedy ou des années serial killers? Je parle de l'avenue des géants, très beau livre que vous aviez signé. Vous êtes tout d'un coup tourné vers l'avenir.
Oui, parce que, évidemment, quand on est romancier, on a quand même un lien à la société contemporaine et on regarde comment elle va évoluer. Moi, j'avais déjà fait un essai sur le numérique, l'homme nu, que j'avais écrit avec Christophe Labbé. Et ça m'a donné envie, parce que j'ai beaucoup travaillé pendant plusieurs années sur la question du numérique. Et je me suis dit, aujourd'hui, il y a deux échéances. La première, c'est l'échéance climatique. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que la disparition annoncée par certains de l'espèce humaine suite à la destruction de son environnement, on ne peut pas dire que ce soit une certitude, et on espère que ce ne soit pas une certitude, mais c'est une éventualité. Et au même moment, on a le numérique qui s'engage dans une voie très forte, on le voit avec Google, on le voit avec beaucoup d'acteurs du numérique, qui est de dire l'échec de l'homme, c'est la mort, et on va être capable de transcender cet échec. Et de le transcender grâce au numérique, grâce aux milliards de données qu'on récolte sur les individus. Un jour, on sera peut-être capable de reconstituer un individu.
Alors vous allez assez loin, parce que reconstituer un individu, c'est pas seulement un clonage biologique, vous allez jusqu'à imaginer qu'on est capable artificiellement de recréer la conscience.
Oui, parce que la conscience, en réalité, tout ce qui fait ce que nous sommes, c'est une génétique. Et c'est évidemment une histoire. Et cette histoire psychologique, cette histoire émotionnelle, on est capable de la capter à travers les données. Et de même qu'on est capable de capter les potentialités d'un individu. Et de ce fait-là, ces travaux, je ne sais pas quand est-ce qu'ils aboutiront et s'ils aboutiront, mais en tout cas, c'est une voie. Et ce qui est intéressant sur le plan romanesque, c'est de montrer que cette voie est ouverte. Parce que, évidemment, en plus, le fait de muter dans une enveloppe artificielle, ça résout énormément de problèmes au niveau écologique. Donc, est-ce que la technologie va aller vers là? Moi, je pense qu'en tout cas, elle est partie dans cette direction.
Alors, ce qui est assez fascinant dans votre livre, c'est qu'on est à la fois dans un monde futuriste, dans cette Islande, à la fois terre sauvage, mais aussi terre fragile, ce volcan qui menace d'exploser à un moment ou à un autre. C'est fascinant parce que on est en 2060, mais 2060, c'est vraiment demain. C'est le monde de nos enfants. Donc, c'est à la fois de l'anticipation et un regard aigu, déprimant parfois, sur notre monde d'aujourd'hui, sur Google, sur la présidence américaine. Vous avez des mots très, très durs sur l'actuel président américain.
Oui, en fait, si vous voulez, l'anticipation, c'est réussi si on est capable d'avoir, à partir de l'anticipation, un regard sur la société d'aujourd'hui encore plus éclairé que par la simple narration de ce qui se passe au jour le jour. Et c'est pour ça que j'ai pris ce mode-là. Je ne deviens pas un auteur d'anticipation ni de science-fiction pour autant, mais je trouve que c'est particulièrement intéressant. Et c'est vrai que moi, j'ai un sentiment profond qui est le sentiment d'une impasse. C'est-à-dire que nous sommes dans une impasse parce que l'évolution nous a dotés de conscience et que cette conscience est essentiellement dévouée au matériel et donc à la multiplication des objets, produire, consommer toujours. 75% du chiffre d'affaires de Google, Alphabet, c'est la publicité. Donc c'est pousser à consommer. Et le problème, c'est que cette consommation effrénée ce matérialisme presque obsessionnel, maintenant on le sait, il nous amène dans une impasse. Donc c'est quoi l'alternative ? Et moi, je suis assez convaincu fondamentalement, sans être religieux moi-même, mais que, et c'est pour ça que je mets la religion à part, mais je pense
oui,
que...
Oui, il y a une rencontre assez saisissante cette sauveuse et le Vatican, d'ailleurs, mais j'en dirai pas plus.
Et le Vatican. Et je crois autant à la nécessité d'une transition spirituelle au sens d'une élévation et de l'utilisation de l'esprit à d'autres fins que de produire et consommer qu'à la transition écologique.
Est-ce que vous diriez que le monde de la création, les livres comme vous, on peut penser également aux romans graphiques, j'ai beaucoup pensé à Bug de Enki Bilal, les séries Ad Vitam qu'on a vues récemment sur Arte, vous avez une forme de devoir d'alerte que le monde politique et aujourd'hui l'organisation économique du monde est incapable de proposer aux citoyens, aux hommes?
Je crois que quand on a la chance, et c'est le cas aujourd'hui puisque c'est la gentillesse de m'inviter, je crois que quand on a la chance de pouvoir s'exprimer, aujourd'hui, pour moi, c'est une préoccupation très forte parce qu'il y a une réalité derrière cette crise écologique. Je le voyais encore le week-end dernier en parlant avec des ouvriers agricoles dans le secteur viticole. Le nombre de maladies apparemment inexplicables qui sont les leurs. Et on voit qu'il y a une vraie échéance dramatique. C'est-à-dire qu'on... Donc cette réalité-là, il faut dire aux gens que la voie dans laquelle on est extrêmement dangereuse, qu'elle ne conduit pas forcément à notre disparition, mais en tout cas très certainement à des moments très difficiles.
Vous décrivez avec beaucoup de pessimisme que serait notre potentiel d'autodestruction. Nous sommes à la fois soumis à ce monde, nous sommes également des acteurs de ce monde, et il y a une forme d'impuissance, d'où le personnage de cette femme, c'est peut-être pas un hasard si c'est une femme, qui tente de sauver ce qu'on peut encore sauver de moralité, j'allais dire, oui. Et d'échange entre les êtres humains.
Oui, parce que je trouvais assez drôle, finalement, de prendre une femme dans une sorte de posture prophétique. Jusqu'à maintenant, tous les prophètes des grandes religions ont été des hommes. Et là, qu'une femme soit la prophète d'une nouvelle façon de vivre, je trouvais ça extrêmement intéressant.
Et effectivement, ça l'est, ça s'appelle Transparence, publié chez Gallimard, c'est sur tous les étals des librairies, et je vous conseille de vous y plonger, parce que vous l'avez compris, on parle beaucoup de notre monde. À ce propos, Marc Duguin, vous avez, comme beaucoup de gens, j'imagine, regardé notre président de la République avant-hier, la réponse en matière de destruction de la planète, la réponse écologique, la réponse en matière de contrôle de notre consommation et du numérique de demain, est-ce que vous l'avez eu en écoutant le président de la République ?
Malheureusement, pas du tout. C'est-à-dire, moi, je m'attendais, j'espérais... Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé des gilets jaunes ces derniers temps, mais en nombre, la mobilisation des gens et des enfants et des adolescents pour le climat était bien supérieure dans les faits, sauf qu'elle est moins violente. Et elle n'est pas violente, d'ailleurs, ce qui est une bonne chose, d'ailleurs. Mais, et moi, je m'attendais, après « We'll make the planet great again », à avoir quelque chose de consistant. Et là... visiblement, on est encore dans les déclarations d'intention et j'ai l'impression que déjà, avec le départ de Hulot, ça avait sonné la fin des intentions politiques du président et j'ai l'impression que là, on s'enfonce encore plus.
Ça voudrait dire qu'il faudra écrire un Transparence 2, peut-être, pour alerter encore plus les consciences ?
Malheureusement, peut-être.
Vous l'avez compris, c'est un livre qui nous parle de demain, mais surtout d'aujourd'hui, et qui nous transporte dans un environnement troublant. C'est très beau à lire, par moments un peu déprimant, même s'il y a quelques petites notes d'humour sur l'évolution de notre monde. Je vous conseille vraiment de le lire. Transparence, signé Marc Duguin. Merci d'avoir été sur Europe 1 ce matin.
Merci beaucoup.
Europe 1.
Quand la littérature accompagne notre monde, quand le foot accompagne l'histoire du monde, dans un instant, direction l'Institut du Monde Arabe, au moment où l'Algérie s'embrase, 60 ans de révolution du ballon rond.
Europe 1,
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Europe 1. Vous êtes avec François Kloss jusqu'à 10h pour C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
60 ans de révolution du ballon rond dans le monde arabe, c'est l'exposition que nous propose l'Institut du Monde Arabe et nous avons deux guides hors pair pour vous faire visiter cette exposition ce matin. Bonjour Chérif Guémour.
Bonjour.
Bonjour Javier Prieto Santos.
Bonjour à tous et toutes.
Rédacteur en chef, journaliste dans la belle revue SoFoot. Cette exposition nous raconte donc 60 ans d'histoire du foot dans le monde arabe. Et ça commence par une histoire que certains connaissent peut-être, d'autres pas, absolument extraordinaire. Celle d'une équipe d'un État qui n'existait pas à l'époque, qui se créait, qui s'appelait le FLN. Je vous propose d'écouter une forme de bande-annonce. C'est dans une très belle série de DVD qui s'appelle Les Rebelles du foot, réalisée par Gilles Roff et Gilles Pérez, avec comme figure tutélaire un certain Eric Cantona.
Pour un pays qui n'existait pas encore, son pays, l'Algérie.
J'étais apolitique, mais ce qui me tentait le plus, c'est justement cette idée du français d'Algérie. Comment ils nous considéraient, comment ils nous rejetaient, comment ils nous maltraitaient, etc.
Et comment le foot devient un moyen de combattre, Chérif Guémour, cette histoire, elle est extraordinaire. Hein. Nous sommes en pleine guerre d'Algérie. Des joueurs algériens jouent dans leur pays, qui est la France, à ce moment-là. Deux sont des internationaux, Mekloufi, qu'on vient d'entendre, et même un Zidane avant l'heure, un joueur extraordinaire. Et soudain, ils quittent leur club et ils partent au pays de la Révolution.
Oui, c'est l'histoire d'une espérance. L'Algérie n'existait pas. Hein. C'était un rêve, l'État indépendant. Donc, tous ces joueurs, entre guillemets, algériens, qui étaient français, ont décidé de rejoindre l'équipe du FLN, ils ne savaient pas où ils allaient. Ils ne savaient pas si l'Algérie allait réussir sa révolution, qu'elle allait devenir indépendante. Donc, ils ont tout lâché en des carrières professionnelles assez prometteuses. Il y avait trois joueurs qui étaient susceptibles de faire la Coupe du Monde en 58. Et ils ont accepté, sans trop savoir où ça allait les mener, d'être un peu des diplomates du ballon rond au service du FLN.
Au service de leur cause. Et ils seront considérés, Javier Prieto Santos, comme illégaux. Cette équipe ne sera pas reconnue internationalement. Et là, on voit la géopolitique qui se met en place. Les pays qui acceptent de recevoir et de jouer contre cette équipe dite du FLN sont des pays qui soutiennent la révolution algérienne.
Ce sont des pays effectivement qui soutiennent la révolution algérienne, et c'est aussi grâce à eux que l'Algérie, disons, a pu avoir cette sélection-là, parce que s'il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas d'Algérie, en tout cas en foot. Et donc ce sont ces pays qui ont permis l'existence, la création de cette Algérie-là.
Alors, cette histoire que nous raconte l'Institut du Monde Arabe, avec des documents d'époque, les unes des journaux, les photos, le récit de cette traque clandestine passant par la Suisse et la Tunisie pour arriver en Algérie, elle pourrait nous renvoyer à une autre histoire, Javier Prieto Santos, celle d'aujourd'hui d'une sélection de Palestine. Or, la Palestine n'est pas un État reconnu, mais la FIFA et Michel Platini à l'époque poussaient à ce qu'il y ait une sélection nationale palestinienne.
La FIFA a plus de membres que l'ONU, donc déjà ça pose tout le rapport géopolitique qu'il y a entre foot, nation, identité, etc., etc. Et la Palestine, effectivement, la sélection palestinienne est le porte-drapeau quelque part des revendications palestiniennes. Et effectivement, cette sélection palestinienne a un maillot et a beaucoup de maillots d'ailleurs, et c'est l'un des plus vendus en France, parce que on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont partisans de cette sélection pour maintes raisons, et c'est l'un des plus
vendus, notamment politique.
Et aujourd'hui, disons qu'elle a plus de noms que de talents ou de qualités. Mais ça reste le porte-drapeau de toutes les revendications politiques, culturelles, palestiniennes. C'est très important pour ce pays, disons, entre guillemets.
Quand le foot accompagne l'histoire, quand le foot peut-être parfois devance, écoutez, dans les rues d'Alger, ça fait 10 week-ends, 10 vendredis consécutifs qu'on entend ça. Manifestation en plein centre d'Alger, en tête de cortège, les ultras des clubs algériens qui quittent leur stade mais transposent, Chérif Guémour, leur culture stade dans la rue.
Ouais, c'est typique des pays où la démocratie n'est pas encore assez épanouie, je dirais. Les stades ont toujours été les lieux de ralliement de contestations politiques, sociales, revendicatrices. Actuellement, c'est ce qui se passe un peu en Iran avec des femmes qui essayent de pouvoir fréquenter les stades. Donc, c'est pas entièrement étonnant de voir que d'où sont venus les centres de contestation que sont les stades, c'est-à-dire les supporters, les ultras. Donc si on les retrouve en tête de cette contestation, des manifestations, c'est pas un hasard.
Et Javier Prieto Santos, on voit même des ultras rivaux, on l'a vu contre Moubarak en 2011, place Tahrir au moment de la révolution égyptienne. Ils se mettent sur la tronche, quasiment, et ils sont ensemble contre Moubarak.
Non, ils se détestent normalement, mais disons que des figures comme Moubarak, comme Bouteflika, leur permettent de se réunir et disons cristallisent leurs revendications sociales. Et on l'a vu récemment en Algérie où les ultras du Mouloudia et de l'USM à Alger, qui sont deux clubs algérois qui se détestent parce qu'ils ont un derby qui s'appelle le derby des frères ennemis, se sont, disons, réunis dans les rues d'Alger pour justement mener la contestation, en tout cas populaire, ou en tout cas de la jeunesse algérienne des quartiers populaires, afin de détrôner Moubarak de son...
Bouteflika en Algérie, et Moubarak, c'était le cas avec les deux grands clubs, les deux grands clubs du Caire.
Ça a été une tragédie d'ailleurs à Port Saïd, parce que les ultras d'Al Ahly avaient mené la révolte contre Moubarak à Place Tahrir, et ça s'est très très mal fini dans un bain de sang, il y a eu 75 morts, et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé ce jour-là.
Alors dans ce parcours que nous propose l'Institut du Monde Arabe, le foot qui accompagne les révolutions, le foot qui accompagne l'histoire, il y a cette question quand même en toile de fond, est-ce que le foot est un vecteur d'intégration, d'accélération de l'intégration? Écoutez ce que sur Europe 1 on disait un certain soir du 12 juillet 98 sur le Vieux-Port de Marseille.
Impressionné par la foule hein, sur Marseille, on voit un peu des drapeaux français mais aussi des drapeaux algériens, sûrement pour signe de l'origine de Zizou.
Je suis très contente et c'est vrai, il a raison, ça montre que vraiment la France c'est le métissage avant tout et c'est ça, la France qui gagne.
La France qui gagne, métissée, et évidemment le monde politique qui s'en empare, Claude Bartolone, ministre de la Ville.
Vraiment, le groupe a montré toute sa solidité. Et puis, j'espère que cette équipe Black Blanc Beurre donnera envie à bon nombre de nos concitoyens de chasser leurs idées racistes et puis montrer que lorsqu'on a la volonté, on peut gagner.
Alors, le monde politique, la foule, 3 ans plus tard, chez Yves Guémour, le premier France-Algérie de l'histoire du foot se déroule pour Zinedine Zidane en France, au Stade de France. Match interrompu à la 76e minute et des drapeaux algériens qui envahissent la pelouse.
Trop d'émotions, trop de passion. Faut pas exagérer le côté dramatique, ultra politisé et tout. Il fallait un événement comme ça, c'était peut-être un peu trop tôt. On sortait en plus des attentats du 11 septembre et tout. Donc, et puis c'est très très passionnel. Entre les deux peuples, je dirais qu'il y a plus d'amour que de haine. Et puis voilà. Puis en plus, l'équipe d'Algérie était très mal menée. Moi, j'y étais. Donc, ils étaient menés 4-0, 4-1, les pauvres. Donc,
Thierry Henry dira ce jour-là, on jouait à l'extérieur.
Ouais, mais il n'y a pas eu de violence. Moi, j'y étais et tout ça. Bon, c'est révélateur d'un certain malaise identitaire. Mais ce n'est pas non plus les germes de la guerre civile.
Ne pas donner plus. Et on retiendra cette extraordinaire photo que nous propose l'Institut du Monde Arabe où il y a un papa. Ça, avec le drapeau algérien autour des épaules, qui a sur ses épaules son fils qui a le maillot de Zidane, bleu, blanc, rouge, français. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés dans cette visite. Javier Prieto Santos et Chérif Guémour, le monde arabe, les révolutions et le ballon rond. C'est jusqu'au mois de juillet à l'Institut du Monde Arabe. Alors, on sera peut-être un peu déçu sur la partie soft power du football dans cette exposition sponsorisée par le Qatar. Mais au moins, regardez les rebelles du foot et lisez Sauf foot, puis ça n'a rien à voir avec le monde arabe, mais un des plus grands livres de foot que j'ai lu, il est signé Chérif Guémour, ça s'appelle Johan Cruyff, Jelly Pop et Despot, à lire et à relire.
Retrouvez C'est arrivé cette semaine tous les samedis de 9h à 10h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.